30. Eh bien, train de mort, je quitte le désert. Je vais au hasard chercher du mouvement et du bruit parmi les hommes. Je ne sais où j'irai. Sténio s'est résigné à vivre un mois séparé de moi. Que je passe ce temps ici ou ailleurs, il n'importe pour lui. Moi, je veux me rendre compte d'une chose. C'est à savoir si je suis plus ou moins mal sur la terre, avec ou sans une affection. Quand je commençais d'aimer Sténio, je crus que l'affection m'emporterait au-delà du point où elle m'a laissé. J'étais si fier de croire à un reste de jeunesse et d'amour. Mais tout cela est déjà retombé dans le doute et je ne sais plus ce que je sens ni ce que je suis. J'ai voulu la solitude pour me recueillir, pour m'interroger. Car abandonner ainsi sa vie sans rame et sans gouvernail sur une mer plate et morne, c'est échouer de la plus triste manière. Mieux vaut la tempête, mieux vaut la foudre. Au moins, on se voit, on se sent périr. Mais pour moi, la solitude est partout. Et c'est folie que de la chercher au désert plus qu'ailleurs. Seulement, là, elle est plus calme, plus silencieuse. Eh bien, cela me tue. J'ai découvert, je pense, ceux qui me soutiennent encore dans cette vie de désenchantement et de lassitude. C'est la souffrance. La souffrance excite, ranime, irrite les nerfs. Elle fait saigner le cœur. Elle abrège l'agonie. C'est la convulsion violente, terrible, qui nous relève de terre et nous donne la force de nous dresser vers le ciel pour maudire et crier. Mourir en léthargie, ce n'est ni vivre ni mourir. C'est perdre tous les avantages, c'est ignorer toutes les voluptés de la mort. Ici, toutes les facultés s'endorment. À un corps infirme où l'âme se soutiendrait vigoureuse et jeune, cet air vif, cette vie agreste, cette absence de sensations violentes, ces longues heures pour le repos, ces frugales habitudes seraient autant de bienfaits. Mais moi, c'est mon âme qui rend mon corps débile, et tant qu'elle souffrira, il faudra que le corps dépérisse, quelles que soient les salutaires influences de l'air et du régime animal. Or, cette solitude me pèse à l'heure qu'il est. Étrange chose, je l'ai tant aimé et je ne l'aime plus. Oh, cela est affreux, train de mort. Quand toute la terre me manquait, je me réfugiais dans le sein de Dieu. J'allais l'invoquer dans le silence des champs. Je me plaisais à y rester des jours, des mois entiers, absorbé dans une pensée d'avenir meilleur. Aujourd'hui, me voilà si usé que l'espoir même ne me soutient plus. Je crois encore par ce que je désire, mais cet avenir est si loin et cette vie ne finit pas. Quoi, est-il impossible de s'y attacher et de s'y plaire? Tout est-il perdu sans retour? Il y a des jours où je le crois, et ces jours-là ne sont pas les plus cruels. Ces jours-là, je suis anéanti. Le désespoir est sans aiguillon, le néant sans terreur. Mais les jours où, avec un souffle tiède de l'air, un rayon pur du matin, se réveille en moi une velléité d'existence, je suis le plus infortuné des êtres. L'effroi, l'anxiété, le doute me rongent. Où fuir? Où me réfugier? Comment sortir de ce marbre qui, selon la belle expression du poète, me monte jusqu'aux genoux et me retient enchaîné comme le sépulcre retient les morts? Eh bien, souffrons, cela vaut mieux que de dormir. Dans ce désert pacifique et muet, la souffrance s'émousse, le cœur s'appauvrit. Dieu, rien que Dieu, c'est trop ou trop peu. Dans l'agitation de la vie sociale, Ce n'est pas une compensation suffisante, une consolation à notre portée. Dans l'isolement, c'est une pensée trop immense. Elle écrase, elle effraie, elle fait naître le doute. Le doute s'introduit dans l'âme qui rêve. La foi descend dans l'âme qui souffre. Et puis, j'étais habitué à ma souffrance. C'était ma vie, c'était ma compagne, c'était ma sœur. Cruelle, implacable, sans pitié, mais fière, mais assidue, mais toujours escortée de stoïques résolutions et d'austères conseils. Reviens donc, ô ma douleur, pourquoi m'as-tu quittée? Si je ne puis avoir d'autre ami que toi, du moins, je ne veux pas te perdre. N'es-tu pas mon héritage et mon lot? C'est par toi seul que l'homme est grand. S'il pouvait être heureux dans ce monde d'aujourd'hui, s'il pouvait traverser d'un front serein et voir d'un œil tranquille la laideur du genre humain qui l'entoure, il ne serait pas plus que cette foule stupide et lâche qui s'enivre dans le crime et s'endort dans la fange. C'est toi, ô douleur sublime, qui nous rappelle au sentiment de notre dignité en nous faisant pleurer sur l'égarement des hommes. C'est toi qui nous mets à part et nous place, brebis du désert, sous la main du pasteur céleste qui nous regarde, nous plaint, en attendant peut-être qu'il nous console. Oh, l'homme qui n'a pas souffert n'est rien. C'est un être incomplet, une force inutile, une matière brute et sans valeur que le ciseau de l'ouvrier brisera peut-être en essayant de la façonner. Aussi, j'estime Sténio moins que toi, Trainemort, quoique Sténio n'ait pas un vice et que tu les aies eus tous. Mais toi, rude acier, Dieu t'a fondu dans la fournaise ardente et après t'avoir tordu de cent façons, il a fait de toi un métal solide et précieux. Pour moi, que deviendrais-je? Oh, si je pouvais m'élever du même vol que toi et devenir plus puissante que tous les maux et tous les biens de la vie. 31. Lélia descendit les montagnes, et, avec un peu d'or versé sur son chemin, elle franchit rapidement les vallées frontières. Peu de jours après avoir dormi sur la bruyère de Monteverdor, elle étalait le luxe d'une reine dans une de ces belles villes du plateau inférieur qui rivalisent d'opulence entre elles et qui voient encore fleurir les arts sur la terre d'où ils sont venus. Comme Trainemort, qui s'était rajeuni et fortifié au bagne, Lélia espéra renaître, par la force de son courage, au milieu de ce monde qu'elle haïssait et de ses joies qui lui faisaient horreur. Elle résolut de se vaincre, de dompter les révoltes de son esprit sauvage, de se jeter dans le flot de la vie, de se rapetisser pour un temps, de s'étourdir, afin de voir de près ce cloaque de la société et de se réconcilier avec elle-même par la comparaison. Lélia n'avait pas de sympathie pour la race humaine, quoiqu'elle souffrît les mêmes maux et résumât en elle toutes les douleurs semées sur la face de la terre. Mais cette race aveugle et sourde sentait son malheur et son abaissement sans vouloir s'en rendre compte. Ceux-là, hypocrites et vaniteux, cachaient les plaies de leur sein et l'épuisement de leur sang sous l'éclat d'une vaine poésie. Ils rougissaient de se voir si vieux, si pauvres, au milieu d'une génération dont ils ne voyaient pas la vieillesse et la pauvreté percées de tous côtés. Et pour se faire jeunes comme ceux qu'ils croyaient jeunes, ils mentaient, ils fardaient toutes leurs idées, ils niaient tous leurs sentiments. Ils étaient fanfarons d'innocence et de simplicité, eux décrépits dès le sein de leur mère. Ceux-ci, moins effrontés, se laissait emporter par le siècle. Lent et débile, il s'en allait avec le monde, sans savoir pourquoi, sans se demander où était la cause, où était la fin. Ils étaient de nature trop médiocre pour s'inquiéter beaucoup de leur ennui. Petits et faibles, ils s'étiolaient avec résignation. Ils ne se demandaient pas s'ils pouvaient trouver secours dans la vertu ou dans le vice. Ils étaient également au-dessous de l'un et de l'autre. Sans foi, sans athéisme, éclairés tout juste au point de perdre les bienfaits de l'ignorance, ignorants au point de vouloir tout soumettre à des systèmes étroitement rigoureux, ils pouvaient constater de quels faits se compose l'histoire matérielle du monde, mais ils n'avaient jamais voulu étudier le monde moral ni lire l'histoire dans le cœur de l'homme. Ils avaient été arrêtés par l'imbécile inflexibilité de leur prévention. C'étaient les hommes du jour qui raisonnaient sur les siècles passés et futurs sans s'apercevoir que leur génie avait tous passé par le même moule et que, rassemblés en masse, ils auraient pu s'asseoir encore sur les bancs de la même école et suivre la loi du même pédant. Quelques-uns, c'était le petit nombre, mais ils représentaient pourtant une puissance sociale, avaient traversé l'atmosphère empoisonnée des temps sans rien perdre de la vigueur primitive de l'espèce. C'étaient des hommes d'exception comparativement à la foule. Mais entre eux, ils se ressemblaient tous. L'ambition, seul ressort d'une époque sans croyance, annihilait la noblesse mâle et caractéristique des parties à chacun d'eux pour les confondre tous dans un type de beauté grossière et sans prestige. C'étaient bien encore les hommes de fer du Moyen-Âge. Ils avaient le regard fauve, les pensées fortes, le bras robuste, la soif de la gloire et le goût du sang, tout comme s'ils se fussent appelés Armagnac et Bourgogne. Mais à ces larges organisations que la nature produit encore, manquait la sève de l'héroïsme. Tout ce qui le fait naître et l'alimente était mort. L'amour, la fraternité d'armes, la haine, l'orgueil de la famille, le fanatisme, toutes les passions personnelles qui donnent de l'intensité au caractère, de la physionomie aux actions. Il n'y avait plus pour mobile de ces âpres courages que les illusions de la jeunesse détruites en deux matins et l'ambition virile, têtue, sale, déplorable fille de la civilisation. Lélia, triste existence flétrie par le sentiment de sa dégradation, seule peut-être assez attentive pour la constater, assez sincère pour se l'avouer, Lélia, pleurant ses passions éteintes et ses facultés perdues, traversait le monde sans y chercher la pitié, sans y trouver l'affection. Elle savait bien que ces hommes, malgré leur agitation essoufflée et chétive, n'étaient pas plus actifs, pas plus vivants qu'elle. Mais elle savait aussi qu'ils avaient l'impudence de le nier ou la stupidité de l'ignorer. Elle assistait à l'agonie de cette race, comme le prophète, assis sur la montagne, pleurait sur Jérusalem, opulente et vieille débauchée étendue à ses pieds. 32. Le plus riche parmi les petits princes de l'État donnait une fête. Lélia y parut éblouissante de parure, mais triste sous l'éclat de ses diamants et moins heureuse que la dernière des bourgeoises enrichies qui se pavanaient avec orgueil sous leur faste d'un jour. Pour elle, ces naïfs plaisirs de femme n'existaient pas. Elle traînait après elle le velours et le satin brochés d'or et les cordons de pierrerie et les longues plumes aériennes et molles, sans jeter sur les glaces ce regard de puérile vanité qui résume toutes les gloires d'un sexe encore enfant dans sa décrépitude. Elle ne jouait pas avec ses aiguillettes de diamant pour montrer sa main blanche et effilée. Elle ne passait pas ses doigts avec amour dans les boucles de sa chevelure. Elle savait à peine de quelle couleur elle était parée, de quelles étoffes on l'avait revêtue. Avec son air impassible, son front pâle et froid, et ses riches habits, on l'eût volontiers prise pour une de ces madones d'albâtre que la dévotion des femmes italiennes couvre de robes de soie et de chiffons brillants. Lélia était insensible à sa beauté, à sa parure, comme la Vierge de marbre à sa couronne d'or ciselée et à son voile de gaze d'argent. Elle était indifférente au regard fixé sur elle. Elle méprisait trop tous ces hommes pour s'enorgueillir de leurs louanges. Que venait-elle donc faire au bal? Elle y venait chercher un spectacle. Ces vastes tableaux mouvants, disposés avec plus ou moins de goût et d'habileté dans le cadre d'une fête, étaient pour elle un objet d'art à examiner, à critiquer ou à louer dans ses parties ou dans son ensemble. Elle ne comprenait pas que, sous un climat pauvre et froid, où les habitations étroites et disgracieuses entassent les hommes comme des ballots de marchandises dans un entrepôt, on put se vanter de connaître le luxe et l'élégance. Elle pensait qu'à de telles nations le sentiment des arts est nécessairement étranger. Elle avait pitié de ce qu'on appelle les bals dans ces salles tristes et resserrées où le plafond écrase la coiffure des femmes, où, pour épargner le froid de la nuit à leurs épaules nues, on remplace l'air vital par une atmosphère fébrile et corrosive qui enivre ou suffoque, où l'on fait semblant de remuer et de danser dans l'étroit espace marqué entre les doubles rangs des spectateurs assis qui sauvent à grand-peine leurs pieds des atteintes de la valse et leurs vêtements du voisinage des bougies. Elle était de ces gens difficiles qui n'aiment le luxe qu'en grand et qui ne veulent point de milieu entre le bien-être de la vie intérieure et la prodigalité superbe des hautes existences sociales. Encore n'accordait-elle qu'aux peuples méridionaux le privilège de comprendre la vie de pompe et d'apparat. Elle disait que les nations commerçantes et industrielles n'ont ni le sens du goût, ni l'instinct du beau, et qu'il fallait aller chercher l'emploi de la forme et de la couleur chez ces peuples vieillis qui, à défaut d'énergie présente, ont gardé la religion du passé dans les principes et dans les choses. En effet, rien n'est plus éloigné de réaliser la prétention du beau qu'une fête mal ordonnée. Il faut tant de choses difficiles à réunir qu'il ne s'en donne peut-être pas, dans tout un siècle, deux qui soient satisfaisantes pour l'artiste. Il faut le climat, le local, la décoration, la musique, les mets et les costumes. Il faut une nuit d'Espagne ou d'Italie, une nuit sombre et sans lune, car la lune, quand elle règne dans le ciel, verse sur les hommes une influence de langueur et de mélancolie qui se reflète sur toutes leurs sensations. Il faut une nuit fraîche et bien aérée, avec des étoiles qui brillent faiblement au travers des nuages et qui ne semblent pas se moquer des illuminations. Il faut de vastes jardins dont les parfums enivrants pénètrent par flots dans les appartements. La senteur de l'oranger et la rose de Constantinople sont surtout propres à développer l'exaltation du cœur et du cerveau. Il faut des mets légers, des vins savoureux, des fruits de tous les climats et des fleurs de toutes les saisons. Il faut à profusion des choses rares et difficiles à posséder. Car une fête doit être la réalisation des désirs les plus capricieux, le résumé des imaginations les plus avides. Il faut, avant de donner une fête, se pénétrer d'une chose. C'est que l'homme riche et civilisé ne trouve plus de plaisir que dans l'espoir de l'impossible. Or, il faut approcher de l'impossible autant qu'il est permis à l'homme de le faire. Le prince Daibambuchi était un homme de goût, ce qui est pour un riche la qualité la plus éminente et la plus rare. La seule vertu qu'on exige de ces gens-là, c'est de savoir convenablement dépenser leur argent. À cette condition, on les tient quittes de tout autre mérite. Mais le plus souvent, ils sont au-dessous de leur vocation et vivent bourgeoisement, sans abdiquer l'orgueil de leur classe. Bambucci était le premier homme du monde pour payer un cheval, une femme ou un tableau sans marchander et sans se laisser friponner. Il savait le prix des choses à un scudo prix. Son œil était exercé comme celui d'un huissier-priseur ou d'un marchand d'esclaves. Le sens olfactif était si développé en lui qu'il pouvait dire, rien qu'à l'odeur du vin, non seulement quel était le degré de latitude et le nom du vignoble, mais encore à quelle exposition du soleil était situé le versant de la colline qu'il avait produit. Nul artifice, nul miracle de sentiment ou de coquetterie n'était capable de faire qu'il se méprît de 6 mois sur l'âge d'une actrice. Rien qu'à la voir marcher au fond du théâtre, il était prêt à dresser son acte de naissance. Rien qu'à voir courir un cheval à la distance de 100 pas, il pouvait signaler à sa jambe l'existence d'une molette imperceptible aux doigts du vétérinaire. Rien qu'à toucher le poil d'un chien de chasse, il pouvait dire à quelle génération ascendante la pureté de sa race avait été altérée. Et sur un tableau d'école florentine ou flamande, combien de coups de pinceau avaient été donnés par le maître. En un mot, c'était un homme supérieur et tellement reconnu pour tel qu'il n'en pouvait plus douter lui-même. La dernière fête qu'il donna ne contribua pas peu à soutenir la haute réputation qu'il s'était acquise. De grands vases d'albâtre, répandus dans les salles, les escaliers et les galeries de son palais, furent remplis de fleurs exotiques dont le nom, la forme et le parfum étaient inconnus à la plupart de ceux qui les virent. Il avait eu soin de distribuer dans le bal une 20aine de savants chargés de servir de ciceroni aux ignorants et de leur expliquer sans affectation l'usage et le prix des choses qu'ils admiraient. La façade et les cours de la villa étincelaient de lumière, mais les jardins n'étaient éclairés que par le reflet des appartements. À mesure qu'on s'éloignait, on pouvait s'ensevelir dans une molle et mystérieuse obscurité et se reposer du mouvement et du bruit au fond de ces ombrages où les sons de l'orchestre arrivaient, doux et faibles, interrompus souvent par les bouffées d'un vent chargé de parfums. Des tapis de velours vert avaient été jetés et comme oubliés sur les gazons afin qu'on pût s'y asseoir sans froisser son vêtement. Et, dans quelques endroits, des sonnettes d'un timbre clair et faible étaient suspendues aux arbres et, au moindre souffle de l'air, semait le feuillage de notes incertaines ou d'accords sans suite qu'on eût pu prendre pour les voix grêles des sylphes éveillées par le balancement des fleurs où ils s'étaient blottis. Bambucci savait combien il est important, quand on veut réveiller la volupté dans les âmes énervées, d'éviter tout ce qui peut amener la fatigue des sens. Aussi, dans l'intérieur des salles, la lumière n'était point trop ardente pour les yeux délicats. L'harmonie était douce et sans éclat de cuivre. Les danses étaient lentes et rares. On ne permettait pas aux jeunes gens de former de nombreux quadrilles, car dans la conviction que l'homme ne sait ni ce qu'il veut, ni ce qui lui convient, le philosophique Bambucci avait placé partout des chambellans qui réglaient la dose d'activité et de repos de chacun. Ces gens-là, observateur habile et sceptique profond, mettait un frein à l'ardeur des uns pour qu'elle ne s'épuisât pas trop vite, gourmandait la paresse des autres pour qu'elle ne fût pas trop lente à s'éveiller. Il lisait dans les regards l'approche de la satiété et il trouvait moyen de la prévenir en vous faisant changer de lieu et d'amusement. Il devinait aussi, dans l'inquiétude de votre marche, dans la précipitation de vos mouvements, l'invasion ou le développement d'une passion, et s'il prévoyait quelques résultats immédiatement scandaleux, il savait le prévenir, soit en vous enivrant, soit en vous improvisant une fable officieuse qui vous dégoûtait de vos poursuites. Mais s'il voyait en présence deux acteurs expérimentés dans l'intrigue, il n'épargnait rien pour engager et protéger des rapports qui pouvaient rendre les heures légères à des couples bien assortis. Et d'ailleurs, rien de plus noble et de plus franc que les affaires de cœur qui se traitaient là. Un homme de goût, Bambucci avait banni la politique, le jeu et la diplomatie de ses fêtes. Il trouvait que discuter des affaires de l'État, tramer des complots, se ruiner ou conduire des négociations à travers les plaisirs du bal, c'était chose du plus mauvais ton. Le joyeux Bambucci entendait bien mieux la vie. Il n'y avait pas de cris populaires, pas de murmure subalterne qui parvint à son oreille quand il était en train de s'amuser, le bon prince. Tout conseiller farouche, tout penseur de mauvais augure était banni de ses divertissements. Il n'y voulait que des gens aimables, des hommes d'art, comme on dit aujourd'hui, des femmes à la mode, des complaisants, beaucoup de personnes jeunes, quelques femmes laides, seulement pour faire ressortir les belles, et des êtres ridicules, juste ce qu'il en fallait pour divertir le reste de la société. La majeure partie des convives appartenait donc à cet âge où il y a encore des illusions, et à ces classes intermédiaires qui ont assez de goût pour applaudir et pas assez de richesse pour dédaigner. C'était le cœur dans l'opéra, c'était une partie du spectacle, une partie nécessaire, comme les décors et le souper. Ils ne s'en doutaient pas, ces bons citoyens, mais ils remplissaient dans les salons de Bambucci le rôle de figurant. Ils avaient bien, en qualité d'acteurs, les profits de la fête, c'est-à-dire le plaisir, mais ils n'en avaient pas l'honneur. L'honneur était réservé à un petit nombre, à un certain groupe d'épicuriens choisis que le prince avait à cœur d'éblouir et de charmer. Cela était vraiment l'assemblée, les invités, les juges, les amis qu'on traitait. Cette foule bruyante et parée qu'on faisait passer sous leurs yeux s'y évertuait de son mieux en croyant n'agir là que pour son compte. Admirable discernement du prince dei Bambucci. Ces personnes de distinction n'étaient, pour la plupart, aptes à rivaliser de luxe et de génie avec il padrone della casa. Bambucci savait bien qu'il n'avait pas affaire à des enfants. Aussi tenait-il à honneur suprême de les vaincre en invention et en délicatesse de tout genre. Si l'on avait servi dans des vases de vermeil chez le marquis delle Pamocchie, Bambucci étalait sur les tables une vaisselle d'or pur. Si le juif Zaccario Pandolfi avait montré sa femme couronnée de diamants, Bambucci mettait des diamants jusque sur les souliers de sa maîtresse. Si l'habit des pages du duc Almiri était brodé en or, celui des valets de pied de la maison de Bambucci était brodé de perles fines. Digne et touchante émulation entre les souverains éclairés de nations intelligentes. Il ne faut pas s'abuser, la tâche entreprise par le prince n'était pas facile. C'était une chose grave. Il y avait rêvé plus d'une nuit avant de la tenter. Il fallait d'abord surpasser, en dépenses d'argent et d'esprit, tous ses rivaux dignes de lui. Et puis, il fallait réussir à les enivrer tellement de plaisir qu'oubliant leur orgueil blessé dans la défaite, ils eussent la bonne foi de l'avouer. Eh bien, cette entreprise immense n'étonna point l'imagination gigantesque de Bambucci. Il s'y jeta, sûr de la victoire, plein de confiance dans ses ressources et dans l'assistance du ciel, à qui il avait fait demander 9 jours à l'avance, par l'organe de son clergé, qu'il ne tombât pas de pluie durant cette nuit mémorable. Parmi ces hautes sommités à qui toute la province était servie en collation, l'étrangère Lélia occupait le premier rang. Comme elle avait beaucoup d'argent, elle avait toujours un peu de famille et beaucoup de considération là où elle se trouvait. Connue par sa beauté, ses dépenses et la singularité de son caractère, elle était l'objet des plus ingénieuses attentions du prince et de ses favoris. Elle fut introduite d'abord dans un des salons éblouissants qui n'était que le premier degré de l'éclat progressif réservé à ses yeux. Les affidés de Bambucci étaient chargés d'y arrêter adroitement les nouveaux arrivés et d'entretenir leur intérêt pendant un temps convenable. Or, il se trouva que le jeune prince grec Paolaggi entrait en même temps que Lélia, et que les chambellans n'imaginèrent rien de mieux pour les occuper que de mettre en présence l'une de l'autre ces deux éminences sociales au milieu d'un peuple de riches et de nobles de moindre étage destinés à remplir les interstices des colonnes et les vides du pavé de mosaïque. Ce prince grec avait bien le plus beau profil que jamais sculpture antique ait reproduit. Il était bronzé comme Othello, car il y avait du sang mort dans sa famille, et ses yeux noirs brillaient d'un éclat sauvage. Sa taille était élancée comme le palmier oriental. Il y avait en lui du cèdre, du cheval arabe, du bédouin et de la gazelle. Toutes les femmes en étaient folles. Il s'approcha gracieusement de Lélia et lui baisa la main, quoiqu'il la vît pour la première fois. C'était un homme qui avait des manières à lui. Les femmes lui pardonnaient beaucoup d'originalité, eu égard à la chaleur du sang asiatique qui coulait dans ses veines. Il lui parla peu, mais d'une voix si harmonieuse et d'un style si poétique, avec des regards si pénétrants et un front si inspiré, que Lélia s'arrêta 5 minutes à l'observer comme un prodige, et puis elle pensa à autre chose. Quand le comte Ascanio entra, les chambellans firent chercher Bambucci. Ascanio était le plus heureux des hommes, rien ne le choquait, tout le monde l'aimait, il aimait tout le monde. Lélia, qui savait le secret de sa philanthropie, ne le voyait qu'avec horreur. Dès qu'elle l'aperçut, son front se chargea d'un nuage si sombre que les chambellans, épouvantés, eurent recours au patron lui-même pour le dissiper. « Est-ce là ce qui vous embarrasse ?» leur dit Bambucci à voix basse, en jetant son regard d'aigle sur Lélia. « Vous ne voyez pas que le plus aimable des hommes est insupportable à la plus atrabilaire des femmes. Où serait le mérite? Où serait le génie? Où serait la grandeur de Lélia si Ascanio réussissait à avoir raison? S'il parvenait à lui prouver que tout va bien dans le monde, à quoi passerait-elle son temps? Sachez donc, maladroit, combien il est heureux pour certaines organisations que le monde soit plein de travers et de vices. » Et dépêchez-vous de débarrasser Lélia de cet épicurien charmant, car il ne comprend pas qu'il vaudrait mieux tuer Lélia que de la consoler. » Les chambellans allèrent doucement prier Ascanio de vouloir bien chasser la mélancolie qui se répandait sur le beau front de Paolaggi. Ascanio, convaincu qu'il allait devenir utile, commença à triompher. C'était un bonhomme féroce qui ne vivait que du supplice des autres. Il passait sa vie à leur prouver qu'ils étaient heureux afin de ne pas leur accorder d'intérêt. Et quand il leur avait ôté la douceur de se croire intéressant, il le haïssait plus que s'il les eût décapités. Bambucci offrit son bras à Lélia et la conduisit dans le salon égyptien. Elle en admira la décoration, critiqua poliment quelques détails de style et finit pourtant par combler de joie le savant Bambucci en lui déclarant qu'elle n'avait rien vu de mieux. En ce moment, Paolaggi, qui s'était débarrassé d'Ascagno, l'homme heureux, reparut auprès de Lelia. Il avait revêtu un costume des temps anciens. Appuyé contre un sphinx de jaspe, il était le plus remarquable accident du tableau, et Lelia ne put le voir sans éprouver le même sentiment d'admiration que lui eût inspiré une belle statue ou un beau site. Comme elle faisait naïvement part de ses impressions à Bambucci, celui-ci se rengorgea comme un père à qui l'on vante son fils. Ce n'est pas qu'il eût la moindre affection pour le prince grec, mais le jeune prince était beau, paré, d'un grand effet dans la salle égyptienne. Bambucci le considérait comme un meuble précieux qu'il aurait loué pour la soirée. Alors il se mit à faire valoir son prince grec. Mais comme en dépit de la supériorité la mieux établie, il est bien difficile de se préserver d'inadvertance dans le tumulte d'une fête dont on a tout le soin, il regarda involontairement la statue d'Osiris, et dès lors, deux idées analogues venant à se croiser malheureusement dans son cerveau, il lui fut impossible de les séparer. « Oui, dit-il, c'est une belle statue. Je veux dire que c'est un homme distingué. » Il parle le chinois comme le français et le français comme l'arabe. Les cornalines que vous voyez à ses oreilles sont d'une valeur inestimable, de même que les malachites incrustés sur les pieds. Et puis, c'est une tête de feu, un cerveau sur lequel le soleil a laissé tomber son influence dévorante. C'est une tête dont personne n'a de copie et que j'ai payé 1000 écus à un de ces voleurs anglais qui explorent l'Égypte. Avez-vous lu son poème à Delia et ses sonnets à Zamora dans la manière de Pétrarque ? Je ne saurais assurer que le corps soit absolument identique, mais le basalte en est si semblable et les proportions s'accordent si bien... Quand Bambucci s'aperçut de son imbroglio, il resta court. Mais en tournant la tête avec effroi vers Lelia, il reprit courage en voyant qu'elle ne l'écoutait pas et qu'elle s'éloignait rapidement.